Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, on va passer une heure ensemble, on va parler de musique, on va parler de zombies, on va parler de sport, de meurtre et on va aussi parler de chevaliers. Mais tout d'abord, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga. On va passer une heure ensemble. Vous pouvez, bien entendu, nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat de la radio, si j'arrive à l'ouvrir. Et vous pouvez également nous retrouver en direct sur YouTube pour voir les albums qu'on va présenter, parce que du coup, on a un petit problème de caméra, donc vous ne verrez pas nos têtes. Je ne suis pas tout seul, je suis bien entendu avec mes compagnons. Je suis en compagnie de Fabien. Ça va, Fabien ?
Salut tout le monde, ça va bien.
Je suis aussi en compagnie de Bruno.
Salut tout le monde, oui, ça va, ça va.
Chaudement,
on a survécu.
Eh ouais. Bon. Avec Florence.
Bonsoir tout le monde.
Et on a un invité spécial ce soir dans la personne de Damien Geffroy. Bonsoir Damien.
Bonsoir Sébastien, merci pour l'invitation.
Mais de rien, on parlera tout à l'heure de ton album sorti aux éditions Flûte Glaciale, Agnès la Chevaleresse, un album que t'as fait tout seul.
J'en suis assez fier justement, c'est la première fois que ça arrive et j'ai mis un point d'honneur à faire jusqu'aux couleurs que j'avais encore jamais tellement fait en album et ouais, voilà.
Et ben parfait, on en parlera tout à l'heure, donc si vous avez des questions à poser à Damien sur son album, si vous l'avez lu, vous souhaitez dire que vous avez kiffé, ben n'hésitez pas à nous envoyer des messages directement dans le chat. On va commencer directement avec les news, même si Florence nous a dit qu'il n'y avait pas grand chose aujourd'hui.
La période festival estivale.
La période.
C'est pas fait exprès. À commencer, donc effectivement, je vais vous parler de trois événements. Le premier, c'est le festival BD Les Courants à Amboise, qui aura lieu les 4 et 5 juillet prochains. Ça sera la 19e édition sur l'île d'Or. Les Courants, c'est un festival qui mêle deux univers artistiques, la musique et la bande dessinée, dans un cadre convivial en bord de Loire. Cette programmation mixte offre donc au public une expérience riche à travers plusieurs concerts en plein air de rock, punk et reggae et des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs. Pour cette édition 2026, du côté de la bande dessinée, une vingtaine d'artistes donc sont attendus et l'entrée du festival est gratuite.
Cool.
Le même week-end, il y aura aussi le Japan Festival Tour. Donc, c'est sur 3 jours, du 3 au 5 juillet, ça sera la 11e édition. Et ça sera au parc des expositions de la ville de Tours. Un bel espace de bande dessinée y sera inclus également, avec bien sûr des œuvres inspirées de la culture japonaise. Comptez 19€ pour un jour, 40 pour le pass 3 jours et 55€ pour le pack famille.
C'est cool ça.
Les 4 et 5 juillet également se déroulera la 17e édition du festival BD et gastronomie Bulle à Croquer à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, organisée par l'association 212. Cette édition est dédiée à l'auteur Pierre Bordage, décédé en décembre 2025. Seront prévues au programme donc, des expositions présentées sur les quais du port de Légué, ainsi qu'au centre culturel de Leclerc. Il y aura bien sûr des rencontres avec les artistes pour des séances de dédicaces. Une table ronde autour de la bande dessinée Basta, guide d'autodéfense féministe pour les ados, mais pas que, de Maria Kronski et Marion Lemusic. Un espace détente, lecture et animation proposé par les bibliothèques de Saint-Brieuc. Et l'événement sera gratuit. C'est tout
ça,
pour
c'est,
les news.
Ça, c'est très cool, les événements gratuits. Merci Florence. Merci, merci. J'espère que pensez à vous hydrater, emmener de l'eau, parce que je pense que les températures ne vont pas redescendre d'ici prochainement. Nous annonce de nouvelles vagues de chaleur. Donc, je sais pas, sortez la clim, votre plus belle ombrelle, mettez-vous à l'ombre et bouquinez. Je pense que c'est le meilleur. On attaque par quoi ? Est-ce que tu veux y aller à fond, Bruno, déjà dès le départ ?
Ah oui, carrément.
Ah ben, je te demande, hein, c'est toi qui.
Moi, je suis prêt. Hein.
À moins que Fabien.
Ah bah c'est comme on veut, si tu veux y aller.
Non, mais
bonne importance.
Allez, on est parti.
Allez, Bruno.
Alors, cette fois, une fois n'est pas coutume, je vais pas vous parler d'un seul album, mais je vais vous parler de plusieurs albums qui ont quand même le point commun d'avoir tous été publiés aux éditions du Blouson Noir. La cheville ouvrière en est au crayon et à l'encre, Johan Guyot. Et à la partie publication et éditoriale, et aussi parfois texte, Sophie Van Kellen. Ils ont ensemble sorti une série de bouquins dont la BD est le principal vecteur, mais pas que, sur le rock metal, mais pas que. Les amateurs de musique douce et apaisante fréquentant le petit festival de musique de chambre se déroulant chaque mois de juin à Clisson connaissent peut-être déjà Welcome to Hellfest, une série de trois albums qui sont désormais réunis en une intégrale et qui sont signés par les deux susnommés, Johan Guyot au dessin et au texte avec Sophie Van Kellen. Donc, en fait, de quoi ça parle Welcome to Hellfest? C'est une chronique qui a été rédigée par, enfin, qui a été élaborée par donc les deux personnes que je viens de citer. Et grosso modo, pour que vous voyez l'ambiance, Johan Guyot, faut savoir qu'il fait partie de ces gros fans de métal et dans la BD il y en a un certain nombre et il œuvre de manière acharnée pour faire connaître aux masses incultes et partager en images, c'est ce qu'il a fait dans Welcome to Hellfest, ce festival haut en couleurs et en décibels. Donc le Welcome to Hellfest retrace des éditions de 2012 à 2019, du moins dans l'intégrale, puisqu'il y a eu trois tomes en fait. Et c'est une sorte de carnet de voyage en pays métalleux, un patchwork d'instantanés de concerts avec un dessin noir et blanc sans fioritures, rudement efficace pour restituer l'imagerie et l'énergie du métal. L'auteur a crobardé une belle galerie très expressive de portraits de ses chantres du gros son, pris sur le vif, guitare en érection et tignasse au vent. Le tout souvent agrémenté d'une courte présentation, juste ce qu'il faut de didactique ou de commentaires personnels sur les artistes immortalisés. Il a également retranscrit quelques éléments incontournables du Hellfest, qu'il s'agisse des lieux ou des à côté des concerts. Avec pas mal d'humour et d'autodérision, Guyot n'hésite pas à se mettre en scène pour livrer quelques-unes de ses expériences de festivalier, coup de cœur ou plans foireux qui font le charme de ces purs moments de rock'n'roll. L'opus est complété par quelques mini-chroniques ainsi que de courtes interviews de Zikos réalisées par Sophie Van Kellen qui apportent une dimension journalistique au bouquin. On regrette même qu'il n'y en ait pas un peu plus. Ceux qui participent tous les ans à cette grande messe électrique retrouveront dans ce bréviaire le parfum et l'écho de leurs souvenirs de fidèles pratiquants de la liturgie du métal. Ceux qui ne connaissent pas le Hellfest comprendront peut-être un peu mieux de quoi il retourne et sans doute que cela donnera envie à certains de mettre le cap à l'ouest. Donc ça, c'est la première BD réalisée par... Il en avait fait avant, mais pour les éditions du Blouson Noir, donc Welcome to Hellfest. Et depuis les éditions du Blouson Noir, donc ont commis trois autres méfaits. Something to Hide, d'abord, qui est paru en 2023, dans lequel Johan Guyot, toujours, hein, puisque c'est le dessinateur des éditions du Blouson Noir, illustre les textes de Diego Gilles, chroniqueur musical, auteur entre autres d'une biographie de Joy Division, qui nous présente toutes ces légendes et mystères enfouis dans les sillons de nos vinyles ou la mémoire numérique de nos CD. Car le rock, comme son ancêtre le blues, musique éminemment transgressive, du moins à leur début, ont longtemps senti le soufre des enfers encourager la perversion sexuelle et la consommation de drogue, entre autres. Pour échapper aux ligues de vertu ou à la censure légale, les bluesmen et les rockers ont développé des trésors d'imagination ou de supercherie. Mais parfois aussi, il ne s'agissait que de trouvailles ou même d'accidents sonores ou visuels motivés par la simple envie d'expérimenter au studio ou seulement de déconner un peu. Ce qui a engendré une véritable petite mythologie quand même, avec ses morceaux cachés à la fin des disques, ses textes à double sens, ses pochettes à tiroirs, ou encore ses paroles enregistrées à l'envers et qui recèlent des messages subliminaux dont certains invoqueraient le diable ou inciteraient au suicide. C'est ainsi tout un monde inconnu et souvent insoupçonné qui se dévoile sous nos yeux et dans nos oreilles. Le rédactionnel de Gilles est illustré par quelques dessins humoristiques de Guyot, lequel insère également des planches de BD, où il rebondit sur chaque thématique abordée avec des exemples issus de son expérience et de sa collection personnelle. Au final, c'est un ouvrage passionnant, érudit, sans être rébarbatif, même si l'on n'est pas forcément grand amateur de rock. Avec Chronique électrique, Johan Guyot est seul aux manettes d'un livre illustré qui n'est pas à proprement parler une BD, même s'il est riche en dessins. L'auteur y présente de nombreuses anecdotes de l'histoire du métal, musique forte en décibels, haute en couleurs, et riche d'une imagerie, voire d'un folklore regorgeant de tronches de rock et d'événements cocasses, pathétiques, étonnants, tragiques, voire franchement foireux, et parfois un peu tout ça en même temps. Certaines anecdotes figurent déjà en bonne place dans la jeunesse du métal, mais d'autres sont beaucoup moins connues. Dans les deux cas, c'est du pur plaisir. Soit on se dit « Ah, celle-là, je la connaissais », ou on se dit le contraire, avec alors la satisfaction de se cultiver pour briller au prochain apéro. Impossible d'en sortir une parmi d'autres, lisez le bouquin. Et pour conclure, il faut absolument qu'on parle du dessin de Johan Guyot, dont l'esthétique invariablement noir et blanc est parfaitement raccord avec le propos et le ton résolument humoristique de tous ses livres. Un trait dynamique, expressif, avec un vrai talent de caricaturiste qui écorne autant qu'il rend image à ses idoles et à sa musique de prédilection. Le débat sur la supposée existence d'un graphisme rock reste toujours ouvert, mais celui de Guyot donne assurément du grain à moudre à ceux qui pensent que oui. Et pour être parfaitement complet, sachez que les éditions du Blouson Noir ont également sorti en 2024, devinez quoi ? Un livre de recettes de cuisine, oui, carrément. Ça s'intitule Cook Me Tender. C'est écrit par Sophie Van Kellen, toujours elle, et la chef Juliette Barrax, une chef bordelaise, ceux qui sont situés là-bas. Et c'est illustré par une kyrielle de dessinateurs, voilà, évidemment Johan Guyot, mais aussi Fab Caro, Pixel Vengeur, Jean Purefraise, Will Argunas. Je vais pas tous vous les citer, là encore, lisez le bouquin. Tout ça pour dire que bon, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme-là, mais les éditions du Blouson Noir, c'est une petite maison d'édition. Parce qu'effectivement, là, je vous ai présenté en gros toutes leurs publications, mais c'est en gros un des rares, peut-être même le seul éditeur qui se consacre entièrement au rock et au métal en particulier. Donc, je vous incite fortement à aller sur leur site, parce que c'est là qu'on les trouve en festival, forcément, au Hellfest, à Angoulême, ainsi de suite, ou dans certains festivals à droite à gauche. Mais si vous voulez découvrir et acheter les bouquins, c'est en ligne, les éditions du Blouson Noir, vous tapez ça dans Google, vous trouverez tout de suite. Donc l'intégrale de Welcome to Hellfest fait 304 pages, 30€. Something to Hide, c'est 128 pages, 20€. Chroniques électriques, c'est 112 pages, 16€. Et Cook Me Tender, donc les recettes rock'n'roll, c'est 120 pages, 22€. Je précise enfin, j'aurais fini ma minute de... Je ne suis absolument pas sponsorisé par les éditions, bien évidemment. Les albums, ça n'empêche que j'ai tous les bouquins. Les albums sont livrés avec... Pardon ?
Et t'es pas contre non plus être sponsorisé.
Ah bah non. Donc je vous précise quand même que les albums sont livrés avec une dédicace sur demande et qu'il y a également des packs en ce moment avec un t-shirt offert. Donc avec un visuel super sympa. Donc tout ça pour le même prix, bien évidemment. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour, évidemment, que vous soyez... Alors si vous êtes fan de rock, là, je vous dis, allez-y, foncez-y. Hein. Et fan de rock et de BD, mais... Vous pouvez aussi y aller pour vous cultiver un petit peu,
découvrir
cette magnifique culture qui en est vraiment une, contrairement à ce que certains pensent. Voilà.
Eh bien, merci Bruno pour tout ça. Il y a de quoi s'en mettre plein les oreilles. Je vais faire un truc que je fais pas habituellement. Je vous inviterai, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne d'AstronoGeek, qui est un youtubeur spécialisé astronomie, mais il vient de faire aussi une histoire où on explique où il explique la commission d'enquête qui a permis de mettre le parental advisory explicit lyric, explicit content.
Très bien.
Et la commission a reçu des personnes qui sont venues défendre un petit peu la liberté d'expression. Joe Denver, donc grande figure de la country, Frank Zappa, et puis Dee Snyder, qui est le chanteur des Twisted Sisters.
Oui, c'est ça.
Voilà. Juste pour ça, faut aller voir. Ça s'envoie des petits obus bien sévères. Ah bah, c'est intéressant.
C'est un paradoxe parce que ça a été complètement contre-productif, ce label, enfin, ou cet avertissement, puisqu'en fait, ça a encore plus incité les jeunes, les ados, à aller acheter et écouter les disques où il y avait la vignette Parental Advisory. Quoi. Donc, voilà.
C'est tout le point de la vidéo et de montrer comment il y avait. Quelques petits soucis aussi éthiques, puisque le comité ayant créé ça, c'était les madames de gens qui allaient politiquement défendre le truc.
Oui.
Voilà.
C'est comme quand Christine Boutin a commencé à déblatérer sur le Hellfest. C'est la première année où Hellfest a été complet, parce que ça leur a fait une énorme pub, en fait.
Merci, Christine. On va faire une petite pause musicale et puis on reprend tout de suite. Juste après, on va faire une petite pause très simple avec un petit Highway to Hell ACDC, ça va ?
C'est validé.
Si ça veut bien marcher, ça veut pas faire ce que je lui demande. Non, ça passe pas.
On peut
pas
la chanter a cappella en attendant. Hein.
Ouais,
ça je te laisse faire.
Walking in the midnight sun.
Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G sur YouTube, Internet ou en podcast, hein, si vous nous écoutez en podcast. C'est toujours la case de Seb, on parle toujours de bande dessinée de 9e art et on va parler un peu de chevaliérisation. On dit ça comme ça, hein, Damien ?
Oula, je ne suis pas certain. Non.
On va parler de ton album Agnès la chevaleresse qui est sorti il y a 2 semaines, même pas
Non, un petit peu plus je pense, début juin, le 4. Ouais.
Chez Fluide Glacial, du coup. Avant de parler de l'album en lui-même, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu, Damien ?
Ah, bah, je suis Damien, voilà.
Voilà. Après ça, merci beaucoup.
C'est sûr qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Je suis dans la BD depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, donc j'ai commencé chez Fluide déjà pratiquement au début, dès mes débuts, et puis j'ai essayé d'y être le plus régulier possible, alors souvent avec Olivier Supiot au scénario un projet d'extraterrestre, ensuite des projets de cow-boys qui sont toujours à l'ouest,
toujours à l'ouest, je sais. Ouais.
Voilà, et aujourd'hui avec de la chevalerie et de l'heroic fantasy, même plus précisément. À côté de ça, je fais d'autres BD dans des styles différent, quoi. C'est-à-dire que je navigue un peu entre BD humoristique et BD engagée, quoi. Donc, j'ai fait Village Global, c'était ma toute première BD. C'était un roman graphique sur l'accueil des demandeurs d'asile dans les campagnes. Donc, voilà, des styles vraiment très variés.
Effectivement, c'est plutôt large, ouais. T'as une préférence pour les deux, l'un des deux styles?
Il y en a un qui est quand même plus récréatif que l'autre. Donc, je trouve que ça s'équilibre bien, justement, bosser sur les deux, et c'est souvent ce qui m'arrive, c'est deux projets en même temps. Et les histoires chez Fluide, c'est vraiment ce côté amusement et plaisir, quoi. Vraiment, depuis le début, avec Olivier au scénario, c'était déjà ça. Et aujourd'hui, sur Agnès, quand c'est moi qui fais mes histoires, c'est toujours le cas. Et puis, en plus, le rythme aussi de publication, où c'est une fois de temps en temps, enfin, si on vise une fois par mois, c'est un peu plus soutenu, mais quand on peut prendre un peu plus de temps, ça vient s'intercaler comme ça entre les planches qui sont plus sérieuses sur un autre projet. Et c'est vraiment ce côté-là qui me plaît bien. Ouais.
Oui, parce que le côté humour, c'est pré-publié déjà, c'est ça?
Alors, chez Fluide, oui. Ouais. Okay. Pas tout. Tout ce qui est dans l'album n'est pas forcément sorti dans le magazine, mais c'est vrai que c'est le modèle de base, c'est plutôt ça. En tout cas, le projet d'album commence toujours par des pages dans le magazine. Ça...
Ok. Des fois, on n'a pas la fin, mais au moins, on a quelques histoires.
Teasing. Ouais, c'est toujours un enjeu, justement, quand on envisage de passer en format album, puisque au début, rien n'est garanti. C'est de pouvoir relier les histoires entre elles, parce que c'est quand même de l'humour par épisode un petit peu. Alors moi là c'était plus simple que dans les cowboys, parce que cette fois j'avais deux héros récurrents, et c'est vrai que dans le thème de l'heroic fantasy on peut facilement partir sur une idée de quête, enfin c'est là-dessus qu'on a travaillé avec l'équipe de Fluide. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de passer sur un format album, donc il y a des choses qui ne sont jamais paru dans le magazine, pas mal de pages de transition, et puis il a fallu surtout trouver un arc narratif pour pouvoir faire un bel objet, quoi, une belle quête qui se termine.
On va parler du scénario, je transmets juste la classe d'âme des gros bisous de Tutur et Yoyo.
D'accord,
je pense que tu as ton fan club qui est connecté.
Ah bah c'est sympa, bah bisous à vous Tutur et Yoyo de Nantes.
Donc c'est un album que t'as fait toi tout seul, tout de A à Z.
Ouais, et comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois, c'est vrai que c'est une grande fierté.
Gros stress ou pas gros enjeu?
Pas forcément, parce que ça a démarré, comme j'expliquais un peu, par des épisodes. Donc au début, ça mange pas de pain, on en fait un, on en fait deux. On peut aller au troisième, quatrième, et ainsi de suite. Et puis un jour, on t'appelle pour te dire, ça serait bien qu'on commence à réfléchir à l'album. Et là, du coup.
Oui, un peu plus de stress.
De joie. Et, et stress, peut-être plus au moment de la sortie, à la limite, parce que du coup, on peut se dire que on peut s'en prendre qu'à soi-même si ça fonctionne pas.
Et de quoi ça parle?
Alors Agnès, ça parle pas vraiment de chevalier, ça parle surtout de chevaleresse. Agnès est une princesse à la base, mais promise à son mariage, elle est cloîtrée dans son château. Et finalement, elle fréquente beaucoup la bibliothèque et les tapisseries aussi qui ornent les murs du palais. Et elle se met à rêver de devenir un jour chevaleresse elle-même et de pouvoir écrire sa propre geste. Donc, elle fait tout pour y parvenir. Alors, elle arrive à rentrer en école, en école de chevalerie, mais à la fin de son cycle d'études, il faut qu'elle valide le cycle avec un stage. Et là, ça devient plus compliqué, parce que pour trouver un maître de stage pour une femme écuyère, c'est pas forcément le plus simple. Donc, elle finit par on finit par lui désigner comme maître de stage le chevalier Gérard, qui lui est un gros macho sur le retour, qui sort du cachot, de 20 ans d'années passées dans le cachot, et qui a sa définition de la chevalerie qui n'est pas forcément la même que celle d'Agnès. Donc voilà, oui. le binôme qu'on va suivre au fil de plusieurs épisodes dans leurs aventures, dans un univers donc heroic fantasy.
Beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots.
Oui, quelques-uns, oui.
C'est compliqué à gérer le dosage de l'humour, arriver à faire un truc qui soit fin sans être trop bourrin, ou parce que l'humour fluide glacial est quand même assez incisif.
Ouais, alors c'est sûr que l'humour c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, ça, c'est souvent ce qu'on dit, et c'est vrai que ça c'est le cas, parce que le format par épisode, il faut quand même qu'il y ait un peu que ça fonctionne sur la chute. Il y a un petit peu de ça quand même, et ceci dit, faut en glisser quand même le plus possible dans les pages au fur et à mesure. Donc bon, là on est dans le contexte est assez porteur, donc finalement ça m'a pas paru si compliqué que ça. Voilà.
Et le côté heroic fantasy, t'étais plus western de mémoire, t'avais pas d'heroic fantasy à ton arc.
Non,
à ton crayon.
C'est vrai. Pourtant, j'aime beaucoup dessiner ça. Donc, justement, c'était l'occasion quand j'ai eu la possibilité de proposer un projet ou quelques histoires, en tout cas, où j'étais l'auteur de A à Z. C'était l'occasion de s'y prêter, quoi. Donc, c'était un peu un rêve de gosse. Ça, j'avais souvent des copains qui me disaient Damien, mais c'est quand tu sors un vrai album de fantasy, d'heroic fantasy. Alors, je sais pas si pour eux, ça sera encore un vrai album d'heroic fantasy. Grodef, je pense à toi notamment, parce que c'est déconnant, c'est second degré. Mais n'empêche qu'on a quand même des ogres, des monstres, des épées qui tranchent. Voilà, et on y est quand même, quoi.
Dans le chat, on nous dit un récit. Marion nous dit un récit engagé avec une héroïne qui sort de l'ordinaire. Merci pour ton engagement pour la cause féministe. Est-ce que tu revendiques l'album comme étant féministe?
Un petit peu quand même, oui. Même si c'est pas forcément, faut être honnête, le premier objectif, c'est surtout la déconne. Mais oui. Alors, je suis à bonne école puisque j'ai ma femme, mes trois filles à la maison qui sont qui surveillent mes publications, et je pense qu'il y a des choses qu'elles laisseraient sans doute pas passer. Et là, en l'occurrence, l'album est même dédicacé à toutes les femmes de ma vie. et c'est vrai que, c'était quand même l'idée, c'était aussi de partir sur un sujet qui était débile, mais pas que, quoi. Voilà.
Ouais, il y a tout un tas de petits textes sous-jacents ou de petites conséquences qu'on pourrait facilement transposer dans la vie quotidienne sur la relation.
Ah oui, parce que le masculinisme a de beaux jours devant lui, malheureusement.
Vas-y, Bruno.
Je me permets une question qui me taraude. Au fur et à mesure que Sébastien présente quelques planches de l'album, c'est comment tu as trouvé le personnage au niveau graphique, je veux dire le choix, que ce soit une brune, des joues un peu rondes, voilà, comment ça t'est venu comme ça, ou t'as été inspiré par des personnes que tu connais, t'as plein de filles à la maison, ou des gens que tu côtoies,
Alors pas forcément inspiré par des gens, non, c'est plutôt je savais juste que je ne voulais pas d'une femme, enfin comme on les voit souvent dans les rucks fantasy, quoi, avec une petite tenue et puis comment on appelle ça, pas les proportions, c'est pas le terme,
des mensurations,
voilà, qu'on met toujours en avant, donc c'était important qu'elle soit un peu plus petite peut-être aussi un petit peu plus boulotte, et puis aussi un peu moins bête peut-être, donc c'est un peu parti comme ça. Après, au niveau de son physique, c'est vrai que sur son visage, je voulais aussi quelque chose qui soit un personnage assez marqué, enfin facilement identifiable, quoi. Donc elle a ses petites touffes de cheveux sur les côtés, sa frange, ça fait que ça lui donne pas mal de bonhomie, et puis ça fait un personnage identifiable, voilà, facilement, quoi. Donc
ça lui donne du caractère aussi, je trouve.
Ouais,
ouais, et puis elle en a, hein, clairement. Du caractère.
Oui, elle en a, oui, à fond, oui.
Et le fait de faire une armure qui protège plus que le strict minimum, c'est... Parce que c'est pareil, l'armure de d'Agnès, elle sort un peu des sentiers battus de la fantasy.
C'est toujours un peu la même idée, quoi. J'allais pas lui faire un bikini en fer forgé, quoi. Donc, elle a un vrai plastron.
Ça a déjà été fait.
oui, ça existe. Elle a un vrai plastron, voilà. Elle est même plus armurée, d'ailleurs, que le chevalier, finalement.
Oui, au final. Pareil, le chevalier en... Quelqu'un qui t'a inspiré ou pas?
Alors non, mais j'ai retrouvé des ressemblances avec des gens. Et il y a un auteur que je retrouve souvent en festival, Bruno Basile, et à chaque fois que je le croise, je lui dis « mais tu me fais trop penser à mon chevalier Gérard ». Alors pas du tout au niveau de la personnalité, heureusement pour lui, mais physiquement physique, un petit ouais. peu. Ouais, il est grand et lancé. Non, il y a pas y a personne en particulier. Là, du coup, j'ai un peu joué sur le contraste avec Agnès, quoi. Mm. Autant elle est petite, un petit peu boulotte, autant lui va être grand et sec. Voilà. Et puis, surtout quelque chose que je prenais du plaisir à dessiner, en fait, quoi. Un visage assez caricatural où je me sentais à l'aise.
Il a un petit côté Don Quichotte.
On m'a dit ça aussi, oui. Ouais, c'est vrai.
Tu parles du dessin. Tu pratiques numérique, tradi, un peu des deux?
Ah, malheureusement, que numérique.
Numérique.
Ouais, à part les crayonnés, des fois, en tradi, notamment quand je n'ai pas accès à mon ordinateur. Mais après, c'est vrai que tout le reste se fait en numérique, à mon grand dam, parce que j'ai rien à exposer, j'ai rien à vendre, j'ai rien à montrer. J'ai même refait une planche d'Agnès pour ma maman, pour qu'elle puisse avoir un original. Elle en voulait un chez elle. Elle savait que ça se faisait en BD. Et donc je l'ai fait expressément pour elle, mais sinon c'est vrai que tout est en numérique, malheureusement. Alors voilà, il y a plein de raisons, je vais pas...
Non, mais au contraire, hein, c'est ça fait partie en fait des discussions qui sont intéressantes à avoir, parce que il y a des garants du tradi, il y a des avantages.
J'aimerais beaucoup, mais voilà, c'est ça, c'est le temps, là, au rythme de travail auquel je suis astreint, moi, je peux pas du tout revenir sur du papier. En plus, je suis autodidacte, donc j'ai pas trop pris le temps d'expérimenter tous les médiums, comme certains ont peut-être eu la chance de faire pendant leurs études. Et moi, si en plus faut que je m'approprie tout ça, c'est très compliqué. Donc le numérique, pour le coup, c'était vraiment ce qui m'allait, ce qui me convient, et même si j'ai des regrets, c'est comme ça.
Il n'y a pas de regrets à avoir, hein. C'est fait. C'est
peut-être que je reviendrai sur du papier le jour où on paiera deux fois plus cher sur un album. Ça, c'est envisageable, mais avant d'en arriver là...
Plus glacial, si vous nous écoutez.
Oui, mais c'est...
Ou même ailleurs. Hein.
Et tu ne fais pas même un storyboard ou quelque chose au crayon où tu démarres ici quand même?
Les parties découpage, je fais pas mal. Parce que justement, je peux le faire en mode un peu plus nomade, que ce soit dans le jardin ou dans le train ou... ailleurs, quoi. Parce que à l'ordinateur, entre l'ordinateur et la synthique, ça prend quasiment 100 mètres carrés, quoi.
Oui, les étapes préliminaires au papier, ça passe bien aussi quand même.
Oui.
Et même au temps de village global, alors sans critiquer, tu avais un dessin qui était un petit peu moins détaillé à l'époque, c'était déjà en numérique.
Non, village global, et je crois jusqu'au tome 1 des Veuves électriques, ça s'est passé sur papier.
Ok.
Parce que j'étais pas équipé. Non, mais c'est vraiment tout bête.
C'est un truc, ça se ressent un petit peu quand on voit le visuel.
Je pense. D'ailleurs, sur le tome 2 des Veuves électriques, il a fallu essayer de reproduire le trait, mais en numérique cette fois. Donc, mais tout en essayant de gagner un peu de clarté quand même, parce que sur le tome 1, je trouvais que c'était un tout petit peu trop charbonneux. Mais...
Je suis pas d'accord, mais bon. Question piège ou pas, est-ce qu'il y a une blague dont t'es pas fier du tout et que t'as quand même gardée?
Parce qu'il y en a une qui est honteuse.
Ah non, moi, je pense que ma blague préférée, c'est sans doute une des blagues qui peut-être toi t'aimes le moins. Ma préférée, c'est avec l'épée au début, qui coupe comme dans du beurre, sous-titré « Parce qu'avec du beurre, c'est meilleur ».
Ouais, ça, on n'est pas breton pour rien. Mais...
Voilà.
Ouais, non, mais je sais pas, j'ai su que ça plaisait pas à tout le monde, le côté jeu de mots un petit peu, enfin, à l'Arleston un petit peu, dans certains noms, par exemple, le dragon s'appelle le dragon de Zalès. bon, voilà, c'est des choses comme ça, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, quoi, donc, non, après, j'espère que j'ai pas fait d'impair parce que des fois, en essayant de soutenir, par exemple, la cause féminine, et d'autant plus en étant un homme, on peut
faire un faux pas.
Voilà, se prendre les pieds dans le tapis, passer le mauvais message, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bon. Bref, j'espère que c'est pas arrivé.
Ben, il y a quelques blagues à connotation sexuelle.
Ah oui.
Mais il y a pas, ça va jamais dans le graveleux, en fait. C'est ça qui est... On s'arrête juste... Je trouve que la frontière est très bien définie pour ça. On s'arrête juste au moment où ça pourrait être beauf.
Bah, après, là, c'est fluide aussi, induit un petit peu cet humour, quoi. C'est vrai que, notamment sur les toutes premières histoires que je leur ai proposées, j'allais facilement vers ces orientations-là.
Un petit peu plus loin.
Ouais. Pas forcément plus loin, mais c'est vrai qu'à connotation sexuelle, comme tu dis, oui, il y a quelques blagues. Et un peu moins, du coup, sur les épisodes que j'ai proposés par la suite. Justement parce qu'on m'a fait remarquer que c'était pas forcément nécessaire toujours, mais ils sont drôles chez Fluid parce qu'ils ont beau dire ça, on retrouve quand même toujours des bites en couverture à coup sûr. C'est...
Et comme quoi, on se retrouve pas. Est-ce qu'il y a des, est-ce que Fluid t'a laissé complètement libre ou est-ce qu'il y a des petits moments où on t'a dit ah, là essaie plutôt de t'orienter comme ça ou...
Sur les histoires, les scénarios, le dessin, grande liberté. Je crois pas, j'ai pas le souvenir de qu'on m'ait fait reprendre quoi que ce soit. Sur les couleurs, un petit peu plus, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis que Clément Argouache, qui est le rédacteur en chef chez Fluid, il touche sa bille en couleurs. Donc, il avait des fois des petites remarques qui étaient toujours les bienvenues parce qu'il y a toujours des améliorations à faire. Après, si, c'est vrai que quand même, de temps en temps, une formulation de phrase, des fois c'était un petit peu trop bavard au début, des petites choses comme ça quand même. Bah, il y avait un bon suivi, hein. Franchement, j'étais très, très content de. Du suivi chez Fluid avec Anaïs Tedpias et Clément Argouache. On fait du bon boulot, merci à eux.
Et ben on les salue.
Et toute l'équipe, hein, parce que du coup, après, on a une belle couverture, etc. C'est, j'ai pas tout fait tout seul.
Je me remarre, je tourne les pages pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et je me remarre en voyant certaines vannes dont la chute arrive plus loin, et celle avec les grenouilles.
Oui.
Alors, je l'ai vu venir assez tôt quand même.
Oui.
Je pense qu'elle est. Ceux qui ont un peu l'habitude la verront venir, mais ouais, ça marche très bien. Si tu devais pitcher Agnès à quelqu'un qui ne connaît pas pour lui vendre la BD, vraiment le pitch quelques secondes pour capter le lecteur.
Quel exercice.
Il est pas sympa.
C'est un exercice.
Il est jamais sympa.
Ça c'est pas très. C'est vous qui êtes bon là-dessus. Moi, je suis nul. Sauf que autant je suis nul là-dessus, autant je suis bon pour faire un album tout seul. Et là, c'est la première fois que ça arrive. Alors, allez-y.
En vrai, ça marche.
Non, mais oui. Non, mais bon, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler quand même à la lecture avec un fond. Ouais, c'est à mettre entre toutes les mains parce que finalement, même des, je sais pas, des gens qui sont pas forcément sur l'heroic fantasy, ils trouveront autre chose. Donc voilà, je vous encourage.
Ben, le sous-texte marche bien sur le féminisme dont on parlait. Bon, pas pour les plus jeunes, hein, quand même, jeunes adultes, ados.
Ouais, c'est ça presque. Ouais. Fluide. Bon, moi, ma fille de, ouais, ben, bon, maintenant ça va, elle arrive en 11 ans, donc 12 même bientôt. Donc ça fait, il y a moins de mal, mais bon, ça fait longtemps qu'elle lit mes trucs chez Fluide.
Bon, ben, parfait.
Il y a un petit dessin explicite de temps en temps.
Il y a une petite créature qui fait. Bon, bref.
Voilà, c'est surtout elle.
Est-ce que tu as d'autres. Alors, est-ce que tu as d'autres projets après dont tu peux nous parler? Ou pas, hein.
Oui,
y a pas...
Si, bien sûr, parce que déjà, oui, il y en a un qui vient de se boucler et qui sortira, je crois, le 22 septembre. C'est les Chroniques de Saint-Roustan. Alors, je suis pas tout seul, on est plusieurs au dessin, avec Étienne Leroux et Loïc Chevalier, Relhomme au scénario, et Pierre-Emmanuel Barré et Arsène, ce sont leurs chroniques qui sont adaptées du coup en BD. Donc ça sort, c'est le tome 2, ça sort le 22 septembre. Et après, c'est beaucoup plus lointain, donc je sais, peut-être un petit peu tôt pour en parler. Je suis sur la 50e page, 55e page, pardon, ancrée. Il y en a
sur 600.
Ben, non, quand même pas. Merci, Dieu merci. Sur 139, je crois, un truc comme ça. Donc,
ouais, c'est un bon quart quand même, hein.
Donc, je suis pas près de la fin, donc on en reparlera peut-être plus tard avec
vous. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver en festival, réseaux sociaux
Alors les réseaux sociaux, je suis pas très bon, mais j'ai quand même un compte Instagram. Je crois que c'est mon nom GE2F et une barre d'espace ROY. Je sais pas si ça suffit pour retrouver.
Non,
mais sinon, je pense qu'on avec les hashtags et tout. Bon bref, je suis pas très fort là-dessus et sur Facebook aussi. Après, j'ai pas encore été voir du côté. Je crois qu'il y a un nouveau truc,
Threads.
Et après en festival, bon, j'en ai pas énormément programmé là. Il y a Quai des Bulles, il y aura Tour de Bulles, Blois et Château-Gontier.
Ok.
Et Chalonne, mais sur Loire, mais c'est lointain ça quand même.
Chalonne,
c'est
un peu plus loin, ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai en tête.
Et ben, parfait.
Donc, oui, je vais vous y retrouver avec plaisir. Alors, à Tours, ça sera avec Pierre-Emmanuel Barré, justement. Ça sera pour l'avant-première. Ça sera deux jours avant la sortie du bouquin.
C'est le tome 2, hein, les Chroniques de Saint-Rostand.
Ouais, c'est ça, c'est okay. Le tome 2. Et voilà, que des bulles, je dédicacerai tantôt les chroniques et tantôt Agnès. Donc, je serai tantôt sur le site, le stand Delcourt, tantôt sur le stand Fluide. Voilà, et puis après les autres festivals, je ne sais pas encore.
Ok. Et ben parfait. Merci, Damien.
Ben, merci beaucoup à vous, à toute l'équipe, et à toi, Seb.
Ben, de rien, de rien. Je propose de rester dans la thématique de la couverture avec Dragon Force, Through the Fire and the Flames. Voilà. Juste un petit peu de musique, et puis on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Ça ne va pas marcher. Allez.
www.radio-g.fr.
Allez, Through the Fire and the Flames de Dragon Force qui succède à la chronique sur l'album Agnès la Chevaleresse de Damien Geffroy, publié aux éditions Fluide Glacial. Si vous avez des questions encore à poser à Damien, il est toujours là, n'hésitez pas. Moi je suis toujours là avec mes comparses aussi. Et on va laisser la parole à mon cher Fabien qui va nous parler de complètement autre chose.
Complètement autre chose, tout à fait. Donc, alors ce soir, oubliez les détectives en imperméable qui cherchent la vérité avec un grand V. Ce soir, on plonge dans la boue. On va parler d'un flic corrompu, ouais, d'un manga magistral et d'une maison d'édition française qu'il faut impérativement soutenir en ce moment. Donc, avant de vous parler de l'œuvre, un mot sur ceux qui nous l'ont apporté, les éditions Komiku. C'est un éditeur indépendant passionné qui a enrichi nos mangathèques avec des titres audacieux comme The Ancient Magus Bride ou Le Chef de Nobunaga. Récemment, la triste nouvelle est tombée, Komiku a été placé en redressement judiciaire. Donc c'est le moment ou jamais, en tant que lecteur et passionné, de faire du bruit pour eux, d'aller en librairie et de redécouvrir leur catalogue. Et s'il y a bien un titre par lequel commencer, c'est le chef-d'œuvre méconnu de Takashi Nagasaki et Koji Kono, inspecteur Kurokochi. Imaginez le pire flic possible. Il est cynique, il fait du chantage aux politiciens, il empêche des millions de yens d'argent sale. C'est donc le lieutenant Kurokochi. Mais là où le manga est brillant, c'est que Kurokochi utilise cet argent et ses méthodes mafieuses pour une seule chose, résoudre l'affaire la plus mystérieuse et la plus sombre de l'histoire du Japon, une affaire bien réelle qui s'inspire du célèbre cas des 300 millions de yens de 1968 jamais élucidé. Pourquoi c'est génial ? Tout d'abord avec un scénario en béton armé. Au scénario, on retrouve Takashi Nagasaki. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il est le co-scénariste de l'ombre des plus grands chefs-d'œuvre de Naoki Urasawa lui-même, comme 20th Century Boys, Pluto ou encore Billy Bat. Autant vous dire que le sens du twist et de la paranoïa politique, il maîtrise. C'est génial aussi, grâce à son anti-héros fascinant, Kurokochi, il n'est pas un héros blanc ou noir comme on peut retrouver dans certains mangas, il est d'un gris absolu. On adore le détester, puis on adore le suivre dans ses machinations toutes plus retorses les unes que les autres. Pour porter un scénario aussi lourd, il fallait un dessin capable de vous coller une baffe visuelle. Même s'il a légèrement un peu vieilli, c'est le travail de Koji Kono, et son style est une pure leçon de mise en scène. Kono a un talent fou pour dessiner les expressions humaines, et particulièrement la laideur de l'âme. Le visage de l'inspecteur Kurokochi est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Il passe en un éclair d'un sourire niais, presque bouffon, à un regard d'une noirceur absolue, terrifiant de sadisme. Les politiciens et les notables y sont croqués avec un réalisme cynique. On y voit chaque ride d'hypocrisie, chaque goutte de sueur froide. Ce n'est pas un manga lumineux, loin de là. Kono utilise des aplats noirs hyper denses, des textures poisseuses et un jeu d'ombre, le fameux clair-obscur, qui renforce l'ambiance de paranoïa. Les scènes de nuit ou les ruelles de Tokyo semblent étouffantes. Le dessin vous fait physiquement ressentir la lourdeur des secrets d'État. Contrairement à d'autres mangas de dialogue qui peuvent sembler figés, le découpage ici est hyper cinématographique. Les angles de vue sont souvent en contre-plongée pour accentuer le pouvoir des puissants ou au ras du sol dans les moments de tension. Le trait est nerveux, vif, presque sale par moments, ce qui donne un côté très organique, très viscéral à l'enquête. En résumé, Inspecteur Kurokochi, qui est une série terminée en 23 tomes, c'est un thriller politique d'une intelligence rare, addictif et d'une noirceur jubilatoire. Alors je préfère vous prévenir, c'est là que le bas blesse, Inspecteur Kurokochi a été victime du syndrome des pépites méconnues et la série est malheureusement en arrêt de commercialisation depuis plusieurs années en France. Donc vous ne pourrez plus la retrouver neuve en rayon.
Et on a la fin ou pas quand même ?
Oui, c'est terminé, conclu, on a tout. Mais c'est justement pour ça que je voulais en parler ce soir. Cette série, c'est le parfait symbole du catalogue de Komiku. Un éditeur indépendant, courageux, qui a pris le risque de traduire un polar politique ultra sombre de 23 tomes, loin des blockbusters grand public, surtout à l'époque, puisqu'on était quand même déjà en 2013 au Japon, donc il est arrivé en 2015 chez nous. C'est cette audace éditoriale qu'on risque de perdre aujourd'hui avec leur redressement judiciaire. Alors ce soir, j'ai deux messages pour vous. Le premier, c'est de partir à la chasse au trésor, fouiller le marché de l'occasion, harceler vos bibliothèques pour lire Kurokochi, car ce thriller politique est un chef-d'œuvre absolu à mon sens. Et le deuxième message, c'est d'aller chez votre libraire pour acheter les titres actuels de Komiku qui sont encore disponibles. C'est en faisant vivre leur catalogue, passé comme présent, qu'on soutient la diversité du manga en France. Ne laissons pas mourir les éditeurs qui osent.
Eh ben écoute, le message est passé, j'espère, pour chez vous. C'est un peu ce que tu as fait, hein, si j'ai bien compris. Parce que
oui, tout à fait.
Le ouvrage, il a un code barre.
Oui, moi j'avais récupéré donc l'inspecteur Kurokochi en sortie de bibliothèque. Donc il me manquait les derniers tomes que j'ai un peu galéré à avoir. Mais j'ai fini par tout récupérer et avoir tout en occasion à la maison. Donc je suis très content. Même bon, si c'est avec code barre, tant pis.
Code barre, et puis tu pouvais le... C'est pratique pour le ranger dans ta bibliothèque.
Oui, il y a déjà le petit code.
Le code dit, ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Fabien. Pour ma part, je vais vous emmener faire du sport, mais pas du tout du foot, hein, puisque je ne regarde pas la Coupe du Monde. Je sais, balancez-moi des cailloux, je m'en fiche. On va d'abord commencer avec de l'e-sport, avec Team Vitality au cœur de la ruche. Un ouvrage chez Sport Factory de QQL et Turiziani. Je suis une... J'adore les jeux vidéo, mais l'e-sport, pour moi, c'est... Je vais faire un cliché, mais c'était des Asiatiques qui vivaient et qui ne faisaient que ça. Et du coup, je connaissais le nom de la Team Vitality, qui est une énorme team, sauf que j'y connaissais rien du tout, mais rien de rien. Et ben, cet ouvrage, c'est l'occasion de découvrir qui sont ces gens-là, qui et comment cette team a été montée, avec un reportage en fait qui va présenter chacun des membres de la Team Vitality telle qu'elle est aujourd'hui, avec des petites fiches signalétiques qui vont présenter leurs points forts, à quel type de métier du quotidien correspond plutôt tel profil de la team. Il y en a un, c'est plutôt l'architecte, l'autre c'est plutôt la maman qui est là pour arriver à consoler tout le monde et à consolider et faire que tout tient. Il y a le leader et c'est hyper intéressant de découvrir en fait que bah ils ont tous des parcours complètement différents, qu'on a vraiment tout un système qui fonctionne comme dans du vrai sport, avec des marchés, avec bah on veut tel joueur, on va mettre des sous pour l'avoir pour tant de matchs, et si ça marche, on pourra aller plus loin. C'est vraiment hyper intéressant à découvrir. Petit bémol, je suis pas un grand fan du dessin, que je trouve un petit peu trop rigide, mais ça marche bien, on reconnaît bien les personnages. J'ai été chercher un petit peu pour voir à quoi ça ressemblait en vrai, et on reconnaît bien les acteurs, et c'est franchement très cool en fait de découvrir un autre type de sport qui est pas souvent mis en avant, un sport qu'on voit très rarement en bande dessinée, et pourtant on a beaucoup de mangas, par exemple, je parle de manga, mais qui se déroulent dans des jeux vidéo, mais on nous présente très rarement les joueurs façon vrais joueurs. On pourrait parler de Sword Art Online où on a des joueurs avec des caisses de réalité virtuelle ou qui jouent dans le jeu, donc peu d'intérêt. Mais là, ils ont des vraies vies en dehors de ça, et ils ont des vrais tourments, des vrais problèmes, et bah, des fois ils peuvent jouer, des fois ils peuvent pas jouer, et c'est vraiment un truc très passionnant à lire.
On le voit un petit peu dans Shangri-La Frontière, mais après un certain nombre d'épisodes un peu plus loin, okay. Où là vraiment on les voit, ils vont en tournoi et tout sur d'autres jeux, et okay. On les voit un petit peu dans la vraie vie. Chose qu'on n'a pas du tout au début, par contre.
J'ai pas du tout lu Shangri-La Frontière, donc il va falloir que je rattrape. Et ma fille, elle va rouspéter ce soir. Elle me dit « Mais si, papa, j'ai dit que c'était très bien. » Ben oui, je sais, mais j'ai pas le temps de tout lire, madame, mademoiselle. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de la Team Vitality, à prendre cet ouvrage. Je pense que vous apprendrez pas grand-chose si vous les suivez depuis un petit moment, parce que leur parcours doivent déjà n'avoir aucun secret pour vous. Mais si vous connaissez pas, c'est l'occasion de jeter un œil sur une équipe française de renom, et de jeter un œil un petit peu neuf sur l'e-sport, et de découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que je vous avoue que ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Hein. Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'ils ont des vraies séances de sport, d'entraînement, de coaching, d'endurance sur des terrains de foot à faire des tours de terrain.
Donc, c'est hyper physique en fait. Il faut qu'ils soient capables de rester concentrés pendant des heures sur certains jeux, et a priori, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement.
Ben, c'est. Ouais, ça se voit, ça se transmet là-dedans. Team Vitality au cœur de la ruche de QQL et Turiziani, c'est chez Sport Factory, et c'est un service de presse. On l'a pas précisé, mais il y avait le Agnès qui était un service de presse, le reste c'était pas les services de presse. Et on va aller dans du vrai sport avec un manga, alors pas français à proprement parler, puisqu'il est de Salvador Nives. J'ai pas vérifié, mais probablement qu'il est quand même français, mais il a plutôt une consonance espagnole ou portugais, avec Blackout, publié chez Ankama. Blackout, ça parle de volleyball. On suit un jeune garçon qui n'a que 12 ans. Et Nico, en fait, il mesure déjà 1m85. Donc, il est quand même vachement grand. Et sa maman, pour lui permettre d'avoir une santé plutôt correcte, l'oblige à faire du sport. Elle veut absolument qu'il fasse du sport, qu'il aille faire de la muscu, des choses comme ça. Lui, ça le gonfle. Le seul sport qui l'intéresse, c'est le sport sur console. Peut-être qu'il connaît la Team Vitality, lui. Et un jour, alors qu'il est avec un de ses autres potes, il va rencontrer une de ses amies qui, elle, fait du volley et qui est sur les derniers matchs d'une compétition, et qui dit « Écoute, il nous manque un joueur, je m'en fiche si t'es mauvais, mais on peut pas jouer sans un joueur, viens. » Donc elle le chope et il lui n'ose pas trop dire non. Et du coup, il va commencer à faire du volley. Et il va se rendre compte qu'il kiffe. Mais vraiment. Parce que, je sais pas, il a des sensations qu'il a jamais eues dans un autre sport. Bon, par contre, soyons honnêtes, il est mauvais. Mais vraiment mauvais. Il est plus grand, il arrive à contrer peut-être plus facilement, il fait des smashs de bourrin, mais quasiment systématiquement en dehors du terrain. Mais par contre, il vit sa meilleure life. Et c'est vraiment ultra sympa de découvrir bah, ce jeune garçon qui est pas passionné par le sport, qui là va découvrir un sport qui va vraiment le faire kiffer. Et on n'est pas dans du shonen sportif où il a pour but de devenir le meilleur joueur, c'est pas Blue Lock par exemple, où ils veulent absolument tous devenir le meilleur footballeur du monde. Lui, c'était vraiment pas ça. Là, il passe juste son temps à kiffer. Et plus il avance dans son sport, plus il passe des bons moments. Et c'est vraiment génial. Sa maman, quand elle va découvrir qu'il fait du volley, elle va lui dire non. Alors on ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'on le saura un petit peu plus tard, même si je trouve que la façon dont c'est amené, soit c'est trop mystérieux, soit un petit peu bancal, peut-être un point faible, mais ça marche super bien. Le dessin, il est franchement très cool, ça me rappelle un petit peu Tokyo Revengers en un petit peu moins détaillé. C'est très cool, les moments de vol, de saut sont franchement bien rendus sur la partie sportive. C'est palpitant, les personnages sont assez cool. Lui, c'est un grand dadais. Clairement, il a pas les caractéristiques d'un héros de shonen. C'est pas, il veut pas se dépasser. Il veut juste kiffer son moment. Et c'est frais en fait. Et ses deux potes avec lesquels il bosse, bah ça marche trop bien. Et franchement, bah voilà, si vous connaissez rien au volet, si vous voulez découvrir, si vous avez, vous cherchez quand même parce que ça. On a quand même la vibe shonen, hein, mais c'est un peu différent et c'est vraiment très cool. Et voilà, après IQ, mais IQ, il y a une version papier ?
Oui, tout à fait, je les ai tous, lus.
Moi, je connais juste l'animé, donc je ne savais pas s'il y a une version papier.
Si, il y a une version papier qui est finie.
En manga sur le volet, il y a quoi ? Jeunesse Serge ? IQ ?
Alors, Jeunesse Serge, il n'y a pas de manga papier.
Ouais.
Il n'y a que l'animé et IQ. Et après, c'est vrai que j'en connais pas d'autres. Il doit y en avoir d'autres.
À creuser.
Mais ouais, non, j'en connais pas d'autres.
Oui, parce que les mangas sur le sport, on va dire qu'il y en a quand même plusieurs milliards.
Il y en a plein.
Eh ben, c'est pas mal tout ça. J'avais prévu d'autres trucs que je vais me garder pour dans 15 jours. Parce que j'aimerais pas trop bâcher. Je sais pas si vous avez entendu quand j'avais parlé de Beneath the Trees ou Nobody Sees. Ils ont fait une suite. C'était un gros kiff. Et puis des zombies dans le rétro, très très drôle. Mais on en reparlera dans 15 jours. On va faire un petit tour de ce dont on a parlé. On a parlé de Team Vitality au cœur de la ruche de QQL et Turidiani, publié chez Sport Factory. On a parlé de Blackout de Salvatore Nignes, publié aux éditions Ankama. On a parlé de Chronique électrique de Johan Guillot aux éditions du Blouson Noir. On a parlé de Welcome to Hell.
Hellfest, pardon.
Welcome to Hell, entre parenthèses, Fest.
Ah, pardon.
De Johan Guillot et Sophie Von Kellen, publié aux éditions du Blouson Noir. On a parlé de Something to Hide de Johan Guillot et Diego Gil, publié aux éditions du Blouson Noir. Ça fait un peu gimmick. On a parlé de Cook Me Thunder de Johan Guillot, Sophie Von Kellen, Juliette Barrax, puisqu'il est dedans, Johan Guillot.
Ah bah c'est lui qui est... Alors il est dedans, il fait partie des dessinateurs qui ont travaillé sur le projet. Ouais, parce que chaque recette de cuisine est illustrée par un dessinateur différent.
Ok. Du coup, toujours publié aux éditions du Blouson Noir. On a parlé d'Inspecteur Kurokoshi de Takashi Nagasaki et Koji Kono, publié aux éditions Komiku. Je te laisse repasser le message, soutenez-les.
Oui, soutenez-les. Ils sont en redressement judiciaire, c'est pas la fin. Redressement, ça veut pas dire que c'est terminé, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main là sur les mois à venir. Donc, on va voir ce que ça donne et on espère le meilleur pour eux pour la suite.
Et puis bien entendu, on a parlé d'Agnès, la chevaleresse de Damien Geffroy. Encore merci à toi, publié aux éditions Fluide Glacial.
Oui, ben encore merci pour l'invitation.
Eh ben, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. J'ai un petit Porky normalement quelque part qui va pouvoir nous annoncer la fin de l'émission. Voilà. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On remercie encore Damien de nous avoir rejoints et d'avoir démoli le matériel. Non, ça va.
Non, c'est bon.
Encore merci à mes camarades, à Fabien, à Bruno et Florence. Fabien, c'était ta dernière mission
de
la saison?
Oui, c'est ma dernière de la mission. Je pars en vacances un peu plus tôt, donc je ne serai pas là dans 15 jours.
Tout le temps en vacances.
On te déteste. Voilà. Passe de bonnes vacances.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles chroniques. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que c'est... Ah, un dernier mot.
Dans 15 jours, c'est la dernière de la saison.
Ouais, si dernière de la saison. N'hésitez pas à venir dans le studio si vous voulez.
Commencer à prévenir les gens qui se préparent psychologiquement, parce que ça va être dur.
Ça va être dur, ouais. Allez, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trempez vite! Il est parfait de ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
As I'm fighting Satan, I'm using a strategy for the big fallout, the doubt of emptiness. I see all what's been not done. My range of application, let me choose and release the beast. Resulting with clue, blue, rum, combine sharper, unite, connect, link, associate.